Et le journal vous est présenté par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Un accord historique, ce sont les mots, il y a une heure de cela, d'Emmanuel Macron via le réseau social Twitter. Un accord a donc été trouvé par les 27 dirigeants européens sur un plan de relance de 750 milliards d'euros, dont plus de la moitié reposera sur une dette commune. C'est la première fois dans l'histoire européenne. Nous verrons cela avec Marie-Pierre Véraud.
Les autorités sanitaires de la région Grand Est lancent un appel à la responsabilité. Hier, lors d'une conférence de presse, ils ont évoqué non pas une reprise de l'épidémie, mais un frémissement. La région compte une trentaine de foyers épidémiques. L'Agence régionale de santé demande à éviter au maximum les rassemblements.
Nous irons en Allemagne également dans ce journal où s'ouvre aujourd'hui le procès d'un extrémiste antisémite. Il avait tué l'année dernière deux personnes à Halle, devant une synagogue dans le pays. Les signes d'une résurgence de l'extrême droite raciste et antisémite se font de plus en plus menaçants.
Et puis en France, les parlementaires de la commission des lois auditionnés hier Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a précisé devant eux sa vision de la justice des mineurs.
4 jours et 4 nuits pour le plus long sommet européen de l'histoire et une décision historique selon en tout cas les mots du président français ce matin. Les 27 pays de l'Union ont réussi à se mettre d'accord sur le principe d'un prêt à rembourser en commun, une somme qui sera allouée aux pays en ayant le plus besoin. Pour en arriver là, il aura fallu du temps et beaucoup de grincements de dents, Marie-Pierre Véraud.
Et oui, un véritable marathon. 4 jours, autant de nuits qui ont mis les esprits à rude épreuve. Charles Michel, le président du Conseil, a multiplié les allers-retours entre les pays dits frugaux et les autres, les formats de négociation bilatérales, trilatérales, quadrilatérales. Un sommet qui n'a pas été avare en dramaturgie. Emmanuel Macron et Angela Merkel qui ont mis en scène leur proximité, ne s'équitant pas d'une semelle, arrivant ensemble, repartant ensemble, réunissant les uns ou les autres de concert jusqu'à cette conférence de presse commune. Ils ont aussi menacé ensemble de quitter le sommet, les portes ont claqué, des noms d'oiseaux ont été échangés, mais au bout de la nuit, les traits tirés, les 27 peuvent se féliciter. Deal a finalement tweeté le Belge Charles Michel vers 5h30 du matin.
Alors sur le fond, sur quelle somme et surtout sur quels enjeux s'est noué le texte final, Marie-Pierre ?
Eh bien, c'est un compromis, répète à l'envi le président français, qui a permis de ramener la famille européenne autour d'un projet commun. Et chacun peut en effet trouver une raison de se féliciter. Les plus frugaux ont réussi à faire baisser l'enveloppe des subventions qui seront allouées aux pays les plus touchés par la pandémie. De 500 milliards d'euros au début du sommet vendredi, cette enveloppe a fondu à 390. Ce sont tout de même 110 milliards d'euros en moins. Et ce n'est pas la seule victoire pour Mark Rutte, le premier ministre néerlandais, le monsieur nom de ce sommet. Et pour les pays frugaux, Suède, Danemark ou encore Autriche, ils ont obtenu une grosse ristourne sur leur contribution au budget européen, ce fameux rabais, une 50 milliards d'euros au total. Hongrie et Pologne aussi crient déjà victoire, clamant que ces fonds européens ne seront pas soumis au respect de l'état de droit. Mais pour la France et l'Allemagne, l'essentiel est que la solidarité européenne a prévalu et surtout, martèle Emmanuel Macron, pour la première fois de son histoire, l'Union européenne va s'endetter pour ses états. La France notamment repart ainsi de Bruxelles avec quelques 40 milliards qui pourront abonder son propre plan de relance.
Merci pour ces explications. Marie-Pierre Véraud en viendra largement sur la conclusion de ce sommet, évidemment, dans notre journal de 8 heures. Alors que l'Amérique du Nord, les pays d'Amérique latine ou encore l'Inde enregistrent des chiffres records de contamination et de décès dus au coronavirus, l'Afrique du Sud voit elle aussi son nombre de cas augmenter dangereusement, ce que l'OMS analyse comme le début d'une vague qui pourrait progresser sur tout le continent. L'Europe, quant à elle, tente d'enrayer une deuxième vague. Et en France, on constate une augmentation modérée, selon le ministère de la Santé, des nouveaux cas. Ce sont 4 régions qui concentrent les 2/3 des patients en réanimation. L'Île-de-France, le Grand Est, les Hauts-de-France et la Guyane. Dans le Grand Est, la préfecture, l'Agence régionale de santé et l'Agence Santé publique France ont organisé hier une conférence de presse commune sous forme d'appel à la vigilance et à la responsabilité. Écoutez le reportage de Lucas Valdener.
Les autorités sanitaires ne parlent pas de reprise de l'épidémie, mais de frémissement. Le nombre de nouveaux cas a doublé en une semaine et on compte plus d'une trentaine de foyers épidémiques dans la région. La Moselle et le Haut-Rhin sont regardés de près et dans les Vosges, le seuil de vigilance est franchi. Marie-Ange de Sailly-Chanson, directrice de l'ARS Grand Est.
On voit qu'un certain nombre de clusters sont liés à des rassemblements publics ou privés, familiaux. S'il vous plaît, respectez les règles barrières, la distanciation. Si vous vous rassemblez plutôt dehors qu'à l'intérieur, il y a quand même une chose que je vois apparaître et qui est à bannir, ce sont les bises. Arrêtez de vous embrasser, c'est comme ça que le virus est transmis.
Et ce virus, il circule de plus en plus, la preuve avec ce R0, celui qui indique le nombre de personnes contaminées par un seul individu. En 3 semaines, il est passé de 0,72 à 0,98. Au-delà de 1, la situation devient plus difficile à contrôler. Dernier constat préoccupant, les consultations repartent à la hausse chez SOS Médecins.
C'est qu'ils revoient des patients qu'ils ne voyaient plus, des patients plutôt jeunes, des jeunes trentenaires, peu symptomatiques ou asymptomatiques. C'est vrai que les jeunes font peu d'hospitalisation ou de services en réa, mais ils en font. Donc s'il vous plaît, ne jouez pas à la roulette russe.
Le nombre de patients à l'hôpital, lui, n'augmente pas, mais le problème, c'est qu'il ne baisse pas non plus, ou alors très faiblement, même tendance en réanimation.
France Culture, 7h05, Anne-Laure Chouin, c'était le 9 octobre de l'année dernière à Halle, dans l'est de l'Allemagne. L'extrémiste de droite Stéphane Ballet commettait le pire attentat antisémite d'après-guerre dans le pays en attaquant une synagogue en pleine célébration de la fête juive de Yom Kippour.
Deux personnes, des passants, étaient morts ce jour-là, victimes de la rage de l'homme de 28 ans qui n'avait pas pu entrer dans la synagogue. Après cet attentat, la communauté juive allemande avait réclamé des actions de la part des autorités, alors que l'extrême droite connaît une résurgence inquiétante dans le pays. 10 mois après le drame, où en est-on? Les précisions de notre correspondant à Berlin, Romain Chevalier.
Après Halle, le gouvernement allemand a renforcé la sécurité des lieux de culte juif. Devant la nouvelle synagogue de Berlin, 2 policiers armés et des caméras surveillent quotidiennement l'édifice. La première porte passée, des agents de sécurité vérifient les sacs de tous les visiteurs et les font passer un à un à travers un portique. Des mesures similaires à celles d'un aéroport qui rassure Esther, une juive de Berlin.
Je suis très heureuse d'avoir les policiers devant la synagogue. Je dirais aussi que ce n'est pas vraiment sain mentalement, mais c'est certainement une assurance.
Car les juifs allemands s'inquiètent de la montée de l'extrême droite dans le pays et l'attentat de Halle n'a fait qu'accentuer ce sentiment.
C'est vraiment l'atmosphère en général qui est devenue beaucoup plus brute. Franchement, j'ai peur.
Cette crainte, Sigmund Königsberg l'aperçoit régulièrement. Depuis 3 ans, il officie comme responsable de la communauté juive de Berlin dans la lutte contre l'antisémitisme. Mais selon lui, le problème est antérieur à cette attaque.
Alors c'est une étape. C'est un développement qui se passe depuis maintenant 2010. Le sentiment de sûreté pour les juifs en Allemagne a diminué, toujours de plus en plus.
Le gouvernement allemand s'est donc attaqué à l'extrême droite. Depuis le début de l'année, 3 groupuscules ont été interdits. Mais malgré cela, les délits à caractère antisémite ont à nouveau progressé, plus 17% l'an dernier.
Romain Chevalier à Berlin. Retour en France où la feuille de route du nouveau gouvernement se précise, avec notamment hier l'audition du nouveau ministre de la Justice, l'avocat Éric Dupond-Moretti, par la Commission des lois. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les intentions de son ministère. Au programme donc une lutte sans merci contre le fléau des violences conjugales, selon ses mots. À ce sujet, l'Assemblée nationale devrait voter définitivement cet après-midi sur la levée du secret médical dans certains cas urgents de violences conjugales. Le garde des Sceaux a également été interrogé sur ses intentions en matière de justice des mineurs. Il dit vouloir privilégier l'éducatif sur le répressif et souhaite travailler sur une mesure en lien avec le ministère des Armées en reprenant une mesure proposée en 2011 par Éric Ciotti, député LR, qui prévoyait un encadrement militaire pour les mineurs délinquants. Éric Dupond-Moretti.
J'envisage, avec le ministre des Armées, de reprendre une proposition qui a trotté dans la tête de M. Éric Ciotti. Franchement, j'ai la paternité de cette idée, mais je suis allé voir et j'ai vu que vous l'aviez eue également. Je dis que quand on regarde certains gamins avec respect, ils deviennent respectables. Je dis que quand on regarde certains gamins comme s'ils étaient français, ils deviennent français. Je dis qu'un gamin doit sortir de là où il est, la prison ou ce que vous avez envisagé et ce que j'envisage, moins mauvais qu'il n'y est rentré, et que je préfère qu'il ait un militaire pour idole qu'un islamiste radical ou un caïd. Je voudrais qu'on travaille là-dessus, on va travailler là-dessus, on va essayer de faire quelque chose, permettez-moi cette familiarité d'ancien avocat qui a de la gueule. Et puis, je trouve aussi que ça pourrait faire l'unanimité, au fond, sur une grande partie de l'échiquier politique. Laissez-moi encore un peu de temps, mais sachez que, oui, les mineurs, évidemment, c'est une des choses qui me préoccupe beaucoup.
Des propos recueillis par Florence Turm. Et puis c'est aujourd'hui qu'on devrait connaître le fond des mesures plus structurelles négociées à l'occasion du Ségur de la Santé. L'idée, c'est d'améliorer le fonctionnement et l'organisation du système de soins. Les syndicats hospitaliers notamment espèrent une véritable remise à plat du système et un budget à la hauteur des enjeux. Le temps de ce mardi 21 juillet, pour finir, chaud et largement ensoleillé sur la moitié nord avec des températures qui remontent au sud, mais un ciel qui deviendra instable dans le cours de l'après-midi. Il fera ce matin entre 10 et 20 degrés du nord au sud, compté au plus chaud de 19 à 36 degrés dans le sud-ouest cet après-midi.